Je vous propose de le faire dans notre série sur les psaumes de l'été. On voudrait considérer le psaume 133. Et c'est le dernier de la série, puisque après on va enchaîner sur notre convention missionnaire avec des sujets différents. Je vous propose de faire d'abord la lecture du psaume 133. Il s'intitule « Cantique des degrés de David ». Voici... Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà un psaume bien court, mais un psaume... tellement court qu'on peut l'apprendre par cœur pour qu'on puisse s'approprier toutes ces richesses. Ce psaume est l'un des 15 cantiques qu'on appelle les cantiques des degrés et ou des montées, ce sont les psaumes 120 à 134. Ce sont des chants qui étaient chantés par les Israélites lorsqu'ils se rendaient trois fois par an à Jérusalem pour célébrer les fêtes en l'honneur de l'Éternel. En fond, ces pèlerins avaient hâte, ils avaient hâte d'arriver à Jérusalem parce que là, ils allaient retrouver leurs frères. Et quand ils arrivaient enfin à Jérusalem, après parfois plusieurs jours de marche, c'était des retrouvailles. Vous avez déjà regardé ces petites vidéos sur YouTube là, d'une personne qui retrouve son frère. J'ai vu ça dans un mariage, là, l'épouse prend la parole et puis elle dit « Voilà, c'est tellement important que vous soyez là, près de nous, autour de nous. » Et puis le marié aussi prend la parole et pareil, dit quelques mots un peu semblables. Et puis à ce moment-là, il se retourne et le frère de la mariée débarque. Ça fait des années qu'elle l'a pas vu, il était au loin. Et puis il a pu se libérer finalement à la dernière minute et puis le voilà. Et là, l'épouse, pardon, tombe en larmes. C'est les retrouvailles. Retrouver des frères, c'est tellement précieux. Il y a des réjouissances à ce moment-là. Un merveilleux esprit d'unité parmi tout le peuple de Dieu qui sont rassemblés dans la cité. Ils partagent les nouvelles. Ils se consolent les uns les autres des difficultés rencontrées pendant ce temps de séparation. On se réjouissait des enfants nouveau-nés, des fiancés, des jeunes mariés, des progrès des enfants. Tout ce cantique et nous parle de la communion fraternelle comme d'une chose excellente. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour que ça soit si merveilleux, la communion fraternelle? La chose qui est dite ici, il est dit... qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Simplement, demeurer. C'est-à-dire, s'asseoir l'un à côté de l'autre. Juste prendre du temps ensemble. C'est juste être sous le même toit, assis là, à côté l'un de l'autre, dans le temple, et de célébrer Dieu. Ils font pas des choses extraordinaires, c'est simplement le fait... d'être là, ensemble, réunis, l'un à côté de l'autre, pour se manifester l'affection, se manifester l'attention, se manifester l'encouragement. Alors j'aimerais que l'on regarde ce matin, pourquoi est-ce si agréable, la communion fraternelle? On verra ensuite pourquoi est-ce si difficile, et puis enfin, pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce si agréable, la communion fraternelle? J'ai lu un article qui est paru vendredi dernier, qui dit que l'isolement touche 5 millions de Français. Et la solitude n'a pas d'âge. Loin de concerner que les seniors, une enquête du CREDOC pour la Fondation de France, publiée ce vendredi 15 septembre, montre que 700 000 personnes... entre 15 et 30 ans, soit 6% de cette tranche d'âge, vivent dans une situation d'isolement social en 2017. Selon cette étude qui s'intéresse au réseau de sociabilité, c'est-à-dire la famille, les amis, les voisins, les collègues ou camarades, et puis les affinités, ces jeunes n'ont aucune interaction avec l'un de ces réseaux. Vous pouvez imaginer ça ? Entre 15 et 30 ans, 6% n'ont aucun contact, ni avec leur famille, ni avec des collègues, ni avec des amis, ni aucun club de sport. Ils sont seuls. Ça représente 700 000 personnes. En outre, ils sont 1 400 000, 200, le double, soit 12% des 15-30 ans à être en situation de vulnérabilité sociale. Autrement dit, ils ne passent régulièrement du temps qu'avec les membres d'un seul réseau, le cercle familial à 38% et le cercle amical à 26%, qui sont les deux plus développés. Le départ du domicile parental, le célibat, l'éloignement, les problèmes de santé, le complexe physique génèrent cette solitude. La solitude est multifactorielle et résulte souvent d'un enchaînement d'événements, analyse le Crédoc. Au total, 18% des jeunes, soit plus de 2 millions, sont vulnérables socialement et ne rencontrent physiquement et ne passent du temps avec d'autres personnes que très rarement, indique cette étude annuelle sur la solitude. Pourquoi est-ce si agréable, la communion fraternelle ? Parce que c'est un des besoins les plus importants, fondamentaux, qui est le nôtre. On en a tellement besoin. Et David, quand il écrit ce psaume, il est le roi d'Israël, il commence en disant « Voici, oh !» Vous savez, parfois, dans nos cantiques, on a des « oh, oh, oh !» David, il a écrit ce psaume et il a dit « Voici, oh !» Oh, oh, que c'est beau, que c'est fantastique, que c'est merveilleux. Il y a un petit bip là. Merci, merci. Voici, oh, j'ai retrouvé mon fil. C'est une merveille. C'est vraiment une merveille, la communion fraternelle. Et c'est tellement rare, où on le voit si peu souvent, que vraiment, David, il nous encourage à y faire vraiment attention. Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères. Faites-y attention. Elle est digne d'admiration. Ça vaut le coup, quand on voit la communion fraternelle, de s'arrêter et de contempler, de se réjouir, de prendre du temps, juste là. La communion fraternelle nous est nécessaire. Et l'une des raisons pour laquelle la communion fraternelle nous est nécessaire, c'est parce que la vie est dure. La vie est dure. On vient d'entendre le témoignage de Michael, on a entendu celui de notre frère Robert la semaine dernière. C'est dur. La vie est dure. Problèmes de santé, que ce soit la nôtre ou que ce soit celle de nos proches, génèrent de telles attentes. On a besoin de pouvoir trouver de la consolation, de l'amour fraternel. Les difficultés professionnelles, les recherches d'emploi, les problèmes de logement, les situations financières stressantes, des injustices, des discriminations, le contexte d'insécurité, les conflits, tout ça nécessite qu'on ait de la communion fraternelle. Les pannes de voiture, ça use, hein? Quand c'était pas prévu, ça use. Problème électrique. Cette semaine, j'ai passé un moment difficile et chez moi, il y avait vous savez, dans le boîtier électrique des spaghettis là, qui, il y a des bleus, des rouges, des marrons, des noirs là, ils sont tous mélangés là. Et puis vous appuyez sur les boutons, ça éclate tout là. Et il y a un frère qui est passé me voir. Puis il m'a remis ça au carré. Ça marche. C'est magnifique. Mais vous savez, plus encore le fait que ça marche, c'est le bienfait que ça m'a apporté. D'être secouru dans un truc technique là qui me dépassait. D'être secouru là, ça m'a vraiment encouragé. Ces épreuves-là, ça nous use. Alors un ami, un frère, qui vient mettre sa main sur votre épaule, lorsque vous pouvez compter sur quelqu'un pour vous aider, pour vous écouter ou pour prier avec vous, et pour vous, pour vous rappeler les promesses de Dieu, oh, c'est excellent. Nous avons tous des besoins. C'est simplement par du fait que nous soyons des êtres humains, nous avons des besoins. Et nous avons besoin les uns des autres. Nous avons été conçus, nous n'avons pas été conçus pour surmonter nos épreuves par nous-mêmes, tout seuls. Nous avons besoin des frères et sœurs. Et David y poursuit en utilisant deux images pour décrire le caractère de l'amour fraternel. Versets 2 et 3, il dit « c'est comme l'huile, l'huile précieuse qui était mise sur la tête d'Aaron et qui coulait, et puis c'est aussi comme la rosée de l'Hermon. Comme l'huile d'onction qui était versée sur le souverain sacrificateur. Le rôle du souverain sacrificateur était de rétablir la communion entre Dieu et les hommes. Deux caractéristiques sont mentionnées pour cette huile. Elle est précieuse et puis elle coule. Elle descend. En versets 2 et 3, elle descend. Si vous cassez une bouteille d'huile, vous allez voir que ça descend. Vous pouvez essayer de... C'est la catastrophe. Et ça se répand. Vous n'arrêtez pas d'en ramasser. L'amour fraternel, c'est comme ça. L'amour fraternel est précieux. Et puis, il étend son influence bénéfique sur tous ceux qui sont concernés. L'affection chrétienne, elle ne connaît pas de limite. Elle se répand. Quand elle nous atteint, c'est comme un baume qui vient sur notre cœur. Alors, à ce moment-là, nous sommes nous-mêmes portés à déverser ce baume sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un même, naturellement, je suis porté à aimer l'autre. Pas nécessairement celui qui m'a manifesté son amour, mais quelqu'un d'autre. C'est comme s'il a déversé cette huile sur moi et moi, ça coule aussi sur les autres. Cette huile, elle est précieuse. Quand elle était déversée sur la tête de Aaron, il était, la Bible dit, sanctifié, mis à part. Et c'est cet aspect qui fait de nous, au fond, des hommes et des femmes capables de servir Dieu. Si nous-mêmes, nous sommes dans l'amour, si nous-mêmes, nous chérissons nos frères, alors nous sommes qualifiés pour les servir. Paul y dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tout ce que je fais ne sert à rien. Et puis il dit encore, c'est comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est cette montagne qui est tout au nord d'Israël, la plus haute montagne, et elle est renommée pour sa rosée abondante. J'ai lu que la quantité est souvent si importante qu'au matin, il semble qu'il n'y ait plus pendant la nuit. L'humidité aspirée sur les pentes là de l'Hermon, elle est comme répandue dans tout le nord du pays. Elle vient arroser tout le long. Et quand il y a un vent favorable, elle descend tout le long du Jourdain et elle va jusqu'à arroser Jérusalem et la montagne de Sion. Et dans cette région, quand il ne pleut pas du mois d'avril jusqu'à fin octobre, cette rosée-là, elle est simplement indispensable. Elle est simplement porteuse de rafraîchissement pour toute la terre. C'est elle qui vient féconder toute la terre. Vous savez, dans nos vies, on traverse des moments de chaleur, des moments d'épreuve. Et dans ces moments d'épreuve, la communion fraternelle, c'est comme cette rosée qui vient se répandre sur nous. Elle vient, elle se dépose sur nos cœurs. Elle nous fait extrêmement de bien. Elle vivifie, elle rafraîchit notre être. Alors pourquoi est-ce si difficile ? C'est tellement agréable, mais c'est si difficile. Est-ce que vous pensez toujours aux relations fraternelles comme quelque chose de doux, d'agréable et de bon ? C'est effectivement, assurément même, ce que nous attendons des relations fraternelles. Mais elles ne nous apportent pas toujours cette promesse de bon et d'agréable. Au fond, le domaine même des relations nous apporte les choses les plus précieuses et les plus dures. Plus précieuses et les plus... celles qui nous apportent le plus de, parfois, de peine. Alors pourquoi est-ce si difficile ? D'abord, on a un ennemi, il faut le savoir. Il est le diable, il est le diviseur, il est l'accusateur des frères. Il amène la discorde, il amène les conflits, il nous excite au mal. Autre chose, c'est que notre nature de pécheur, et ça c'est peut-être la cause la plus importante, notre nature de pécheur fait que nos paroles, nos actes, sont entachés par l'orgueil, par la suffisance, par l'égoïsme, parfois par l'indifférence, la jalousie, l'esprit de jugement, le manque d'amour. Et de ce fait, les relations sont toujours compliquées. Elles sont nécessairement affectées par notre nature humaine, de pécheur. Et comme nous sommes tous des pécheurs, un peu de mal viendra sûrement affecter nos relations. Et puis il y a notre faiblesse, notre ennemi, notre nature de pécheur, mais notre faiblesse. Nous ne connaissons pas parfaitement, nous ne comprenons pas tout parfaitement. Nous ne sommes pas capables ou compétents dans tous les domaines. Nous sommes souvent défaillants, oublieux, dépassés. Notre corps même se fatigue, se lasse. Notre âme se lasse, se décourage. Et cette faiblesse, elle génère des comportements qui nuisent à la communion fraternelle. Par exemple, quand vous êtes migraineux, que cette migraine vient vous assaillir, que rien ne vous soulage, que la moindre lumière est une torture. La patience est beaucoup moindre à ce moment-là. La bienveillance est moindre dans ces moments-là. Et c'est normal, et c'est simplement dû à notre faiblesse. Et puis il y a nos différences. Nous avons des goûts, des opinions, des expériences, des cultures différentes. Et de ce fait, nos avis, nos choix, nos sensibilités, nos attentes, nos priorités sont différentes. Et peuvent aussi exercer comme une espèce d'éloignement les uns des autres. Et donc c'est précisément là que l'amour fraternel doit se manifester. Lorsque nous avons des opinions différentes, des convictions différentes, on ne peut pas s'empêcher d'argumenter. C'est normal. On est comme ça. Quand on a une conviction, on veut la partager. Et on argumente et on cherche à convaincre, mais à aucun moment, la personne ne devrait se sentir méprisée pour son opinion. À aucun moment, même, elle ne devrait douter de notre amour pour elle. C'est cela notre difficulté. Essayez de ne pas avoir raison, simplement. Être bon, être aimant, On peut être d'accord de ne pas être d'accord. Mais c'est tellement important de prendre ce temps de réflexion et de dire, est-ce que là, je suis dans l'attitude qui méprise la pensée de l'autre, l'opinion de l'autre, ou même sa personne? Est-ce qu'elle ressent quand même que l'amour qui m'anime? Notre nature de pécheur, notre faiblesse, nos différences, tout cela fait que la communion fraternelle est pour ainsi dire impossible. C'est normal qu'il y ait des difficultés relationnelles. Ça marche avec le fait que nous soyons des êtres humains déchus. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit au chapitre 13, verset 1, il dit, il nous commande, persévérez dans l'amour fraternel. C'est intéressant quand même cette idée, persévérer dans l'amour fraternel. Vous trouvez pas ça étrange? On penserait que l'amour, ça va de soi, ça va être un plaisir, j'ai pas besoin d'être commandé de persévérer. Ça va de soi, on va pas s'efforcer, si. Persévérer. Et persévérer dans l'amour fraternel, c'est démontrer cet amour-là. C'est demeurer avec mes frères. Simplement parce que nous sommes des pécheurs. Alors pourquoi est-ce si important? On a vu pourquoi est-ce si agréable, pourquoi est-ce si difficile, pourquoi est-ce si important? Lorsqu'on réalise que par nous-mêmes, on n'arrive pas à aimer, que facilement on peut même abîmer des relations qui par ailleurs se sont montrées si précieuses, si vivifiantes, alors on se tourne vers Dieu. Et dans tout ce psaume, David y montre que cet amour fraternel, il est possible. Il n'y a pas un doute pour lui. C'est possible. Cet amour, il vient du souverain sacrificateur. Il ne vient pas de nous, il vient d'en haut. Il vient comme cette rosée un peu mystérieuse. Notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et cette rosée, cette huile-là, c'est le Saint-Esprit qui nous est donné et qui répand dans notre cœur l'amour fraternel en abondance. Quand on commence à regarder à notre souverain sacrificateur Jésus-Christ, nous le voyons nous aimer au plus haut degré. Nous, des hommes et des femmes déchus, pécheurs. Il nous aime au plus haut degré en se livrant à la croix pour nos péchés, alors que nous, on n'a aucun intérêt pour sa personne. Il se donne entièrement pour nous, alors que nous étions encore des moqueurs, que nous ne cherchions pas à lui plaire, que nous ne voulions pas de lui. Il s'est donné pour nous. Alors que nous ne l'aimions pas, il nous a aimés parfaitement. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'amour de Christ. Tout vient de lui. Alors, quand son amour, comme cette huile, comme cette rosée, vient atteindre nos cœurs, alors il se passe quelque chose en nous qui nous rend capables d'aimer à notre tour. À la fois la haine, à la fois l'esprit de discorde, tout ça est comme anéanti par la grandeur de son amour. Et puis aussi, il met dans nos cœurs la manière dont on doit s'aimer les uns les autres. Et il nous rend capables d'aimer à notre tour. Si on regarde bien au Seigneur, nous voyons notre Seigneur qui injurié ne rendait pas l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Voyez-vous, partout où nous avons défailli, lui, Jésus, a réussi. Il pardonne nos fautes, il nous donne son amour, il nous donne la capacité d'aimer à notre tour. Alors, Paul y dit, accueillons-nous les uns les autres. Comme Christ nous a accueillis. Ça, c'est le verset qui est dans la cafette. Pardonnons-nous les uns les autres comme Christ nous a pardonnés. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Et ce n'est pas tout. C'est si important parce que quand les pécheurs, les faibles, les hommes et les femmes tellement différents que nous sommes, manifeste cet amour par la mise en œuvre de l'Évangile par le Saint-Esprit, alors Dieu ordonne. Il envoie la bénédiction. C'est la fin du verset 3. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Certains pensent que ça fait référence à Sion, là où Christ a été crucifié, là, pour nous. Ça fait référence aussi à ce temps où on est rassemblés dans la perspective de Jésus-Christ, dans l'attachement, la découverte de son évangile. Là, Dieu envoie sa bénédiction dans nos cœurs. Vous savez, l'amour fraternel, c'est la démonstration visible de l'œuvre de Christ dans nos cœurs, restaurant nos relations. Et quand il devient alors visible pour les autres qui nous voient vivre, il les encourage à croire. Et ils reçoivent la vie pour l'éternité. C'est ce qu'il dit à la fin. La bénédiction, il envoie la bénédiction, il envoie la vie pour l'éternité. Pour l'éternité. Je voudrais vous lire ce verset du Seigneur Jésus en Jean 13. Versets 34 et 35, vous les connaissez. Mais il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Pour comprendre l'Évangile, il faut souvent plus que des mots. Il faut des images. Et l'amour entre frères, c'est l'image. Parce que pour être en communion, nous devons vivre l'Évangile. Et quand nous vivons l'Évangile, Dieu répand la bénédiction éternelle. Elle descend sur nous et puis elle touche nos semblables. Voilà pourquoi c'est si important, la communion fraternelle. Je termine. Vous savez, on cherche souvent des techniques pour transmettre l'Évangile à notre entourage. On établit des programmes pour essayer de les atteindre. Mais la bénédiction et la vie pour l'éternité sont envoyées d'en haut, par Dieu lui-même, et il la répand quand se manifeste l'amour fraternel. Et l'amour fraternel est rendu possible uniquement par l'Évangile, par l'acceptation et la mise en pratique de l'Évangile. Comment allons-nous manifester cet amour à nos frères et sœurs aujourd'hui? Comment allons-nous manifester cet amour? Comment vous l'avez fait déjà? Peut-être c'est une salutation. Chaleureuse salutation. Peut-être de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou que vous connaissez mal. Peut-être c'est un service que vous allez rendre. Peut-être c'est une parole d'encouragement que vous allez lui laisser, ou de consolation. Peut-être c'est une visite. Peut-être c'est un cadeau. En tout cas, toutes ces choses, elles doivent être là pour qu'on puisse manifester cet amour et que Dieu répande sa bénédiction sur nos vies. Alors je vous laisse avec cette question. Comment allons-nous manifester cet amour à nos frères et sœurs aujourd'hui? Que Dieu nous vienne en aide, qu'il nous bénisse. Et puis qu'on puisse le faire avec le cœur qui convient.